La vieille fille, troisième partie. Le fond de la société de Mademoiselle Cormon se composait d'environ 150 personnes. Quelques-unes allaient à la campagne, ceux-ci étaient malades, ceux-là voyageaient dans le département pour leurs affaires, mais il existait certains fidèles, qui, sauf les soirées privées, venaient tous les jours, ainsi que les gens forcés par devoir ou par habitude de demeurer à la ville. Tous ces personnages étaient dans l'âge mûr. Peu d'entre eux avaient voyagé, presque tous étaient restés dans la province, et certains avaient trempé dans la chouannerie. On commençait à pouvoir parler sans crainte de cette guerre, depuis que les récompenses arrivaient aux héroïques défenseurs de la bonne cause. Monsieur de Valois, l'un des moteurs de la dernière prise d'armes où périt le marquis de Montauran, livré par sa maîtresse, où s'illustra le fameux marche-à-terre qui faisait alors tranquillement le commerce des bestiaux du côté de Mayenne, donnait depuis 6 mois la clé de quelques bons tours joués à un vieux républicain nommé Hulot, le commandant d'une demi-brigade cantonnée dans Alençon de 1798 à 1800, et qui avait laissé des souvenirs dans le pays. Voyez les chouans. Les femmes faisaient peu de toilettes, excepté le mercredi, jour où Mademoiselle Cormon donnait à dîner, et où les invités du dernier mercredi s'acquittaient de leur visite de digestion. Les mercredis faisaient raout. L'assemblée était nombreuse. Conviés et visiteurs se mettaient in fiocchi. Quelques femmes apportaient leurs ouvrages, des tricots, des tapisseries à la main. Quelques jeunes personnes travaillaient sans honte à des dessins pour du point d'Alençon, avec le produit desquels elles payaient leur entretien. Certains maris amenaient leurs femmes par politique, car il s'y trouvait peu de jeunes gens. Aucune parole ne s'y disait à l'oreille sans exciter l'attention. Il n'y avait donc point de danger, ni pour une jeune personne, ni pour une jeune femme, d'entendre un propos d'amour. Chaque soir, à 6 heures, la longue antichambre se garnissait de son mobilier. Chaque habitué apportait qui sa canne, qui son manteau, qui sa lanterne. Toutes ces personnes se connaissaient si bien, les habitudes étaient si familièrement patriarcales, que si par hasard le vieil abbé de Sponde était sous le couvert et Mademoiselle Cormon dans sa chambre, ni Perrotte la femme de chambre, ni Jacquelin le domestique, ni la cuisinière ne les avertissaient. Le premier venu en attendait un second. Puis, quand les habitués étaient en nombre pour un piquet, pour un wish ou un bonston, il commençait, sans attendre l'abbé de Sponde ou Mademoiselle. S'il faisait nuit, au coup de sonnette, Perrotte ou Jacquelin accouraient et donnaient de la lumière. En voyant le salon éclairé, l'abbé se hâtait lentement de venir. Tous les soirs, le tric-trac, la table de piquet, les 3 tables de boston et celle de whist étaient complètes, ce qui donnait une moyenne de 25 à 30 personnes, en comptant celles qui causaient. Mais il en venait souvent plus de 40. Jacquelin éclairait alors le cabinet et le boudoir. Entre 8 et 9 heures, les domestiques commençaient à arriver dans l'antichambre pour chercher leur maître. Et, à moins de révolution, il n'y avait plus personne au salon à 10 heures. À 7 heures, les habitués s'en allaient en groupe dans la rue, dissertant sur les coups, ou continuant quelques observations sur les mouchoirs à bœufs que l'on guettait, sur les partages de succession, sur les dissensions qui s'élevaient entre héritiers, sur les prétentions de la société aristocratique. C'était, comme à Paris, la sortie d'un spectacle. Certaines gens, parlant beaucoup de poésie et n'y entendant rien, déblatèrent contre les mœurs de la province. Mais mettez-vous le front dans la main gauche, appuyez un pied sur votre chenet, posez votre coude sur votre genou. Puis, si vous vous êtes initié à l'ensemble doux et uni que présente ce paysage, cette maison et son intérieur, La compagnie et ses intérêts agrandis par la petitesse de l'esprit, comme l'or battu entre des feuilles de parchemin, demandez-vous ce qu'est la vie humaine. Cherchez à prononcer, entre celui qui a gravé des canards sur les obélisques égyptiens et celui qui a bostonné pendant 20 ans avec du bousquier, monsieur de Valois, mademoiselle Cormon, le président du tribunal, le procureur du roi, l'abbé de Sponde, madame Granson, et tutti quanti. Et si le retour exact et journalier des mêmes pas dans un même sentier n'est pas le bonheur, il le joue si bien que les gens, amenés par les orages d'une vie agitée à réfléchir sur les bienfaits du calme, diront que là était le bonheur. Pour chiffrer l'importance du salon de mademoiselle Cormon, il suffira de dire que, statisticien né de la société, Du Bousquier avait calculé que les personnes qui le hantaient possédaient 131 voix au collège électoral et réunissaient 1 800 000 livres de rente en fonds de terre dans la province. La ville d'Alençon n'était cependant pas entièrement représentée par ce salon. La haute compagnie aristocratique avait le sien. Puis le salon du receveur général était comme une auberge administrative due par le gouvernement où toute la société dansait, intriguait, papillonnait, aimait et soupait. Ces deux autres salons communiquaient au moyen de quelques personnes mixtes avec la maison Cormon, et vice-versa. Mais le salon Cormon jugeait sévèrement ce qui se passait dans ces deux autres camps. On y critiquait le luxe des dîners, on y ruminait les glaces des bals, on discutait la conduite des femmes, les toilettes, les inventions nouvelles qui s'y produisaient. Mademoiselle Cormon, espèce de raison sociale sous laquelle se comprenait une imposante coterie, devait donc être le point de mire de deux ambitieux aussi profonds que le chevalier de Valois et du Bousquier. Pour l'un et pour l'autre, là était la députation. Et par suite, la pairie pour le noble, une recette générale pour le fournisseur. Un salon dominateur se crée aussi difficilement en province qu'à Paris, et celui-là se trouvait tout créé. Épouser mademoiselle Cormon, c'était régner sur Alençon. Athanase, le seul des trois prétendants à la main de la vieille fille qui ne calcula plus rien, aimait alors la personne autant que la fortune. Pour employer le jargon du jour, n'y avait-il pas un singulier drame dans la situation de ces quatre personnages? Ne se rencontrait-il pas quelque chose de bizarre dans ces trois rivalités silencieusement pressées autour d'une vieille fille qui ne les devinait pas, malgré un effroyable et légitime désir de se marier? Mais quoique toutes ces circonstances rendent le célibat de cette fille une chose extraordinaire, il n'est pas difficile d'expliquer comment et pourquoi, malgré sa fortune et ses trois amoureux, elle était encore à marier. D'abord, selon la jurisprudence de sa maison, mademoiselle Cormon avait toujours eu le désir d'épouser un gentilhomme. Mais, de 1789 à 1799, les circonstances furent très défavorables à ses prétentions. Si elle voulait être femme de condition, elle avait une horrible peur du tribunal révolutionnaire. Ces deux sentiments, égaux en force, la rendirent stationnaire par une loi, vraie en esthétique, aussi bien qu'en statique. Cet état d'incertitude plaît d'ailleurs aux filles, tant qu'elles se croient jeunes et en droit de choisir un mari. La France sait que le système politique suivi par Napoléon eut pour résultat de faire beaucoup de veuves. Sous ce règne, les héritières furent dans un nombre très disproportionné avec celui des garçons à marier. Quand le consulat ramena l'ordre intérieur, les difficultés extérieures rendirent le mariage de mademoiselle Cormon tout aussi difficile à conclure que par le passé. Si, d'une part, Rose-Marie-Victoire se refusait à épouser un vieillard, de l'autre, la crainte du ridicule et les circonstances lui interdisaient d'épouser un très jeune homme. Or, les familles mariaient de fort bonne heure leurs enfants afin de les soustraire aux envahissements de la conscription. Enfin, par entêtement de propriétaire, elle n'aurait pas non plus épousé un soldat, car elle ne prenait pas un homme pour le rendre à l'empereur, elle voulait le garder pour elle seule. De 1804 à 1815, il lui fut donc impossible de lutter avec les jeunes filles qui se disputaient les parties convenables, raréfiées par le canon. Outre sa prédilection pour la noblesse, Mademoiselle Cormon eut la manie, très excusable, de vouloir être aimée pour elle. Vous ne sauriez croire jusqu'où l'avait mené ce désir. Elle avait employé son esprit à tendre 1000 pièges à ses adorateurs afin d'éprouver leurs sentiments. Ces chausse-trappes furent si bien tendues que les infortunés s'y prirent tous et succombèrent dans les épreuves baroques qu'elle leur imposait à leur insu. Mademoiselle Cormon ne les étudiait pas, elle les espionnait. Un mot dit à la légère, une plaisanterie que souvent elle comprenait mal, suffisait pour lui faire rejeter ses postulants comme indignes. Celui-ci n'avait ni cœur ni délicatesse, celui-là mentait et n'était pas chrétien. L'un voulait raser ses futaies et battre monnaie sous le poil du mariage. L'autre n'était pas de caractère à la rendre heureuse. Là, elle devinait quelques goûts héréditaires. Ici, des antécédents immoraux l'effrayaient. Comme l'Église, elle exigeait un beau prêtre pour ses autels. Puis, elle voulait être épousée pour sa fausse laideur et ses prétendus défauts, comme les autres femmes veulent l'être pour les qualités qu'elles n'ont pas et pour d'hypothétiques beautés. L'ambition de Mademoiselle Cormon prenait sa source dans les sentiments les plus délicats de la femme. Elle comptait régaler son amant en lui démasquant 1000 vertus après le mariage, comme d'autres femmes découvrent les 1000 imperfections qu'elles ont soigneusement voilées. Mais elle fut mal comprise. La noble fille ne rencontra que des âmes vulgaires où régnait le calcul des intérêts positifs, et qui n'entendaient rien au beau calcul du sentiment. Plus elle s'avança vers cette fatale époque si ingénieusement nommée la seconde jeunesse, plus sa défiance augmenta. Elle affecta de se présenter sous le jour le plus défavorable et joua si bien son rôle que les derniers racolés hésitèrent à lier leur sort à celui d'une personne dont le vertueux Colin Maillard exigeait une étude à laquelle se livrent peu les hommes qui veulent une vertu toute faite. La crainte constante de n'être épousée que pour sa fortune la rendit inquiète, soupçonneuse outre mesure. Elle courut sue aux gens riches. Et les gens riches pouvaient contracter de grands mariages. Elle craignait les gens pauvres auxquels elle refusait le désintéressement, dont elle faisait tant de cas en une semblable affaire. En sorte que ces exclusions et les circonstances éclaircirent étrangement les hommes ainsi triés, comme pois gris sur un volet. À chaque mariage manqué, la pauvre demoiselle, amenée à mépriser les hommes, dut finir par les voir sous un faux jour. Son caractère contracta nécessairement une intime misanthropie, qui jeta certaines teintes d'amertume dans sa conversation et quelques sévérités dans son regard. Son célibat détermina dans ses mœurs une rigidité croissante, car elle essayait de se perfectionner en désespoir de cause. Noble vengeance ! Elle tailla pour Dieu le diamant brut rejeté par l'homme. Bientôt l'opinion publique lui fut contraire, car le public accepte l'arrêt qu'une personne libre porte sur elle-même en ne se mariant pas, en manquant des parties ou les refusant. Chacun juge que ce refus est fondé sur des raisons secrètes, toujours mal interprétées. Celui-ci disait qu'elle était mal conformée, celui-là lui prêtait des défauts cachés. Mais la pauvre fille était pure comme un ange, saine comme un enfant, et pleine de bonne volonté, car la nature l'avait destinée à tous les plaisirs, à tous les bonheurs, à toutes les fatigues de la maternité. Mademoiselle Cormon ne trouvait cependant point dans sa personne l'auxiliaire obligé de ses désirs. Elle n'avait d'autre beauté que celle-ci, improprement nommée la beauté du diable, et qui consiste dans une grosse fraîcheur de jeunesse, que, théologalement parlant, Le diable ne saurait avoir, à moins qu'il ne faille expliquer cette expression par la constante envie qu'il a de se rafraîchir. Les pieds de l'héritière étaient larges et plats. Sa jambe, qu'elle laissait souvent voir par la manière dont, sans y entendre malice, elle relevait sa robe quand il avait plu et qu'elle sortait de chez elle ou de Saint-Léonard, ne pouvait être prise pour la jambe d'une femme. C'était une jambe nerveuse, à petits mollets saillants et drus, comme celui d'un matelot. Sa bonne grosse taille, son embonpoint de nourrice, ses bras forts et potelés, ses mains rouges, tout en elle s'harmonisait aux formes bombées, à la grasse blancheur des beautés normandes. Ses yeux d'une couleur indécise arrivaient à fleur de tête et donnaient à son visage, dont les contours arrondis n'avaient aucune noblesse, un air d'étonnement et de simplicité moutonnière qui seyait d'ailleurs à son état de vieille fille. Si elle n'avait pas été innocente, elle eût semblé l'être. Son nez aquilin contrastait avec la petitesse de son front, car il est rare que cette forme de nez n'implique pas un beau front. Malgré de grosses lèvres rouges, l'indice d'une grande bonté, ce front annonçait trop peu d'idées pour que le cœur fût dirigé par l'intelligence. Elle devait être bienfaisante, sans grâce. Or, l'on reproche sévèrement à la vertu ses défauts, tandis qu'on est plein d'indulgence pour les qualités du vice. Ses cheveux châtains, d'une longueur extraordinaire, prêtaient à sa figure cette beauté qui résulte de la force et de l'abondance, les deux caractères principaux de sa personne. Au temps de ses prétentions, elle affectait de mettre sa figure de trois quarts pour montrer une très jolie oreille qui se détachait bien au milieu du blanc azuré de son col et de ses tempes, rehaussée par son énorme chevelure. Vue ainsi, en habit de bal, elle pouvait paraître belle. Ses formes protubérantes, sa taille, sa santé vigoureuse, arrachaient aux officiers de l'Empire cette exclamation « Quel beau brin de fille !» Mais avec les années, l'embonpoint élaboré par une vie tranquille et sage s'était insensiblement si mal réparti sur ce corps qu'il en avait détruit les primitives proportions. En ce moment, aucun corset ne pouvait faire retrouver de hanche à la pauvre fille, qui semblait fondue d'une seule pièce. La jeune harmonie de son corsage n'existait plus, et son ampleur excessive faisait craindre qu'en se baissant, elle ne fût emportée par ses masses supérieures. Mais la nature l'avait douée d'un contrepoids naturel qui rendait inutile la mensongère précaution d'une tournure. Chez elle, tout était bien vrai. En se triplant, son menton avait diminué la longueur du col et gêné le port de la tête. Elle n'avait pas de rides, mais des plis. Et les plaisants prétendaient que, pour ne pas se couper, elle se mettait de la poudre aux articulations, ainsi qu'on en jette aux enfants. Cette grasse personne offrait à un jeune homme perdu de désir, comme Athanase, la nature d'attrait qui devait le séduire. Les jeunes imaginations, essentiellement avides et courageuses, aiment à s'étendre sur ces belles nappes vives. C'était la perdrix dodue, alléchant le couteau du gourmet. Beaucoup d'élégants parisiens endettés se seraient très bien résignés à faire exactement le bonheur de Mademoiselle Cormon. Mais la pauvre fille avait déjà plus de 40 ans. En ce moment, après avoir pendant longtemps combattu pour mettre dans sa vie les intérêts qui font toute la femme, et néanmoins forcée d'être fille, elle se fortifiait dans sa vertu par les pratiques religieuses les plus sévères. Elle avait eu recours à la religion, cette grande consolatrice des virginités. Son confesseur l'a dirigée assez niaisement depuis 3 ans dans la voie des macérations. Il lui recommandait l'usage de la discipline, qui, s'il faut en croire la médecine moderne, produit un effet contraire à celui qu'en attendait ce pauvre prêtre, de qui les connaissances hygiéniques n'étaient pas très étendues. Ces pratiques absurdes commençaient à répandre une teinte monastique sur le visage de Mademoiselle Cormon. assez souvent au désespoir, en voyant son teint blanc contracter des tons jaunes qui annonçaient la maturité. Le léger duvet dont sa lèvre supérieure était ornée vers les coins s'avisait de grandir et dessinait comme une fumée. Les tempes se miroitaient. Enfin, la décroissance commençait. Il était authentique dans Alençon que le sang tourmentait Mademoiselle Cormon. Elle faisait subir ses confidences au chevalier de Valois, à qui elle nombrait ses bains de pieds, avec lequel elle combinait des réfrigérants. Le fin compère tirait alors sa tabatière et, par forme de conclusion, contemplait la princesse Goritza. « Le vrai calmant, disait-il, ma chère demoiselle, serait un bel et bon mari. »« Mais à qui se fier ? » répondait-elle. Le chevalier chassait alors les grains de tabac qui se fourraient dans les plis du pou de soie ou sur son gilet. Pour tout le monde, ce geste eût été fort naturel, mais il donnait toujours des inquiétudes à la pauvre fille. La violence de sa passion sans objet était si grande qu'elle n'osait plus regarder un homme en face, tant elle craignait de laisser apercevoir dans son regard le sentiment qui la poignait. Par un caprice qui n'était peut-être que la continuation de ses anciens procédés, quoiqu'elle se sentît attirée vers les hommes qui pouvaient encore lui convenir. Elle avait tant de peur d'être taxée de folie en ayant l'air de leur faire la cour, qu'elle les traitait peu gracieusement. La plupart des personnes de sa société, se trouvant incapables d'apprécier ses motifs, toujours si nobles, expliquaient sa manière d'être avec ses co-célibataires comme la vengeance d'un refus essuyé ou prévu. Quand commença l'année 1815, elle atteignit, à cet âge fatal qu'elle n'avouait pas, à 42 ans. Son désir acquit alors une intensité qui avoisina la monomanie, car elle comprit que toute chance de progéniture finirait par se perdre, et ce que, dans sa céleste ignorance, elle désirait par-dessus tout, c'était des enfants. Il n'y avait pas une seule personne dans tout Alençon qui attribuât à cette vertueuse fille un seul désir des licences amoureuses. Elle aimait en bloc sans rien imaginer de l'amour. C'était une Agnès catholique, incapable d'inventer une seule des ruses de l'Agnès de Molière. Depuis quelques mois, elle comptait sur un hasard. Le licenciement des troupes impériales et la reconstitution de l'armée royale opéraient un certain mouvement dans la destinée de beaucoup d'hommes qui retournaient, les uns en demi-solde, les autres avec ou sans pension, chacun dans leur pays natal, tous ayant le désir de corriger leur mauvais sort et de faire une fin, qui, pour Mademoiselle Cormon, pouvait être un délicieux commencement. Il était difficile que parmi ceux qui reviendraient aux environs, il ne se trouvât pas quelque brave militaire honorable, valide surtout, d'âge convenable, de qui le caractère servirait de passeport aux opinions bonapartistes. Peut-être même s'en rencontrerait-il qui, pour regagner une position perdue, se ferait royaliste. Ce calcul soutint encore pendant les premiers mois de l'année Mademoiselle Cormon dans la sévérité de son attitude. Mais les militaires qui vinrent habiter la ville se trouvèrent tous ou trop vieux ou trop jeunes, trop bonapartistes ou trop mauvais sujets, dans des situations incompatibles avec les mœurs, le rang et la fortune de Mademoiselle Cormon, qui chaque jour se désespéra davantage. Les officiers supérieurs avaient tous profité de leurs avantages sous Napoléon pour se marier, et ceux-là devenaient royalistes dans l'intérêt de leur famille. Mademoiselle Cormon avait beau prier Dieu de lui faire la grâce de lui envoyer un mari afin qu'elle pût être chrétiennement heureuse, il était sans doute écrit qu'elle mourrait vierge et martyre, car il ne se présentait aucun homme qui eût tournure de mari. Les conversations qui se tenaient chez elle tous les soirs faisaient assez bien la police de l'état civil pour qu'il n'arrivât pas dans Alençon un seul étranger sans qu'elle ne fût instruite de ses mœurs, de sa fortune et de sa qualité. Mais Alençon n'est pas une ville qui affriande l'étranger. Elle n'est sur le chemin d'aucune capitale. Elle n'a pas de hasard. Les marins qui vont de Brest à Paris ne s'y arrêtent même pas. La pauvre fille finit par comprendre qu'elle était réduite aux indigènes. Aussi son œil prenait-il parfois une expression féroce, à laquelle le malicieux chevalier répondait par un fin regard, en tirant sa tabatière et contemplant la princesse Goritza. Monsieur de Valois savait que dans la jurisprudence féminine, une première fidélité est solidaire de l'avenir. Mais mademoiselle Cormon, avouons-le, avait peu d'esprit. Elle ne comprenait rien au manège de la tabatière. Elle redoublait de vigilance pour combattre le malin esprit. Sa rigide dévotion et les principes les plus sévères contenaient ses cruelles souffrances dans les mystères de la vie privée. Tous les soirs, en se retrouvant seule, elle songeait à sa jeunesse perdue, à sa fraîcheur fanée, aux vœux de la nature trompée. Et, tout en immolant au pied de la croix ses passions, poésies condamnées à rester en portefeuille, elle se promettait bien, si par hasard un homme de bonne volonté se présentait, de ne le soumettre à aucune épreuve et de l'accepter tel qu'il serait. En sondant ses bonnes dispositions, par certaines soirées plus âpres que les autres, elle allait jusqu'à épouser, en pensée, un sous-lieutenant, un fumeur qu'elle se proposait de rendre, à force de soins, de complaisance et de douceur, le meilleur sujet de la terre. Elle allait jusqu'à le prendre criblé de dettes. Mais il fallait le silence de la nuit pour ces mariages fantastiques, où elle se plaisait à jouer le sublime rôle des anges gardiens. Le lendemain, si Perrotte trouvait le lit de sa maîtresse sans dessus-dessous, mademoiselle avait repris sa dignité. Le lendemain, après déjeuner, elle voulait un homme de 40 ans, un bon propriétaire, bien conservé, un quasi-jeune homme. L'abbé de Sponde était incapable d'aider sa nièce en quoi que ce soit dans ses manœuvres matrimoniales. Ce bonhomme, âgé d'environ 70 ans, attribuait les désastres de la Révolution française à quelque dessein de la Providence, empressé de frapper une église dissolue. L'abbé de Sponde s'était donc jeté dans le sentier depuis longtemps abandonné que pratiquaient jadis les solitaires pour aller au ciel. Il menait une vie ascétique, sans emphase, sans triomphe extérieur. Il dérobait au monde ses œuvres de charité, ses continuelles prières et ses mortifications. Il pensait que les prêtres devaient tous agir ainsi pendant la tourmente, et il prêchait d'exemple. Tout en offrant au monde un visage calme et riant, il avait fini par se détacher entièrement des intérêts mondains. Il songeait exclusivement aux malheureux, aux besoins de l'Église et à son propre salut. Il avait laissé l'administration de ses biens à sa nièce, qui lui en remettait les revenus, et à laquelle il payait une modique pension afin de pouvoir dépenser le surplus en aumônes secrètes et en dons à l'Église. Toutes les affections de l'abbé s'étaient concentrées sur sa nièce, qui le regardait comme un père. Mais c'était un père distrait, ne concevant point les agitations de la chair, et remerciant Dieu de ce qu'il maintenait sa chère fille dans le célibat. Car il avait, depuis sa jeunesse, adopté le système de saint Jean Chrysostome, qui a écrit que « l'état de virginité était autant au-dessus de l'état de mariage que l'ange était au-dessus de l'homme ». Habituée à respecter son oncle, mademoiselle Cormon n'osait pas l'initier au désir que lui inspirait un changement d'état. Le bonhomme, accoutumé de son côté au train de la maison, eut d'ailleurs peu goûté l'introduction d'un maître au logis. Préoccupé par les misères qu'il soulageait, perdu dans les abîmes de la prière, l'abbé de Sponde avait souvent des distractions que les gens de sa société prenaient pour des absences. Peu causeur, il avait un silence affable et bienveillant. C'était un homme de haute taille, sec, à manière grave, solennelle, dont le visage exprimait des sentiments doux, un grand calme intérieur. et qui, par sa présence, imprimait à cette maison une autorité sainte. Il aimait beaucoup le voltairien chevalier de Valois. Ces deux majestueux débris de la noblesse et du clergé, quoique demeurent différentes, se reconnaissaient à leurs traits généraux. D'ailleurs, le chevalier était aussi onctueux avec l'abbé de Sponde qu'il était paternel avec ses grisettes. Quelques personnes pourraient croire que Mademoiselle Cormon cherchait tous les moyens d'arriver à son but, que parmi les légitimes artifices permis aux femmes, elle s'adressait à la toilette, qu'elle se décolletait, qu'elle déployait les coquetteries négatives d'un magnifique port d'armes. Mais point ! Elle était héroïque et immobile dans ses guimpes comme un soldat dans sa guérite. Ses robes, ses chapeaux, ses chiffons, tout se confectionnait chez des marchandes de mode d'Alençon, deux sœurs bossues qui ne manquaient pas de goût. Malgré les instances de ces deux artistes, Mademoiselle Cormon se refusait aux tromperies de l'élégance. Elle voulait être cossue en tout, chair et plumes. Mais peut-être les lourdes façons de ses robes allaient-elles bien à sa physionomie. Se moque qui voudra de la pauvre fille. Vous la trouverez sublime, âme généreuse qui ne vous inquiétez jamais de la forme que prend le sentiment, et l'admirez là où il est. Ici, quelques femmes légères essaieront peut-être de chicaner la vraisemblance de ce récit. Elles diront qu'il n'existe pas en France de filles assez niaises pour ignorer l'art de pêcher un homme, que Mademoiselle Cormon est une de ces exceptions monstrueuses que le bon sens interdit de présenter comme type, que la plus vertueuse et la plus niaise fille qui veut attraper un goujon trouve encore un appât pour armer sa ligne. Mais ces critiques tombent. Si l'on vient à penser que la sublime religion catholique, apostolique et romaine est encore debout en Bretagne et dans l'ancien duché d'Alençon. La foi, la piété n'admettent pas ces subtilités. Mademoiselle Cormon marchait dans la voie du salut. En préférant les malheurs de sa virginité infiniment trop prolongée aux malheurs d'un mensonge, au péché d'une ruse. Chez une fille armée de la discipline, la vertu ne pouvait transiger. L'amour ou le calcul devait venir la trouver très résolument. Puis, ayons le courage de faire une observation cruelle par un temps où la religion n'est plus considérée que comme un moyen par ceci, comme une poésie par cela. La dévotion cause une ophtalmie morale. Par une grâce providentielle, elle ôte aux âmes en route pour l'éternité la vue de beaucoup de petites choses terrestres. En un mot, les dévotes sont stupides sur beaucoup de points. Cette stupidité prouve d'ailleurs avec quelle force elles reportent leur esprit vers les sphères célestes. Quoique le voltairien monsieur de Valois prétendît qu'il est extrêmement difficile de décider si ce sont les personnes stupides qui deviennent dévotes ou si la dévotion a pour effet de rendre stupides les filles d'esprit. Songez-y bien, la vertu catholique la plus pure, avec ses amoureuses acceptations de tout calice, avec sa pieuse soumission aux ordres de Dieu, avec sa croyance à l'empreinte du doigt divin sur toutes les glaises de la vie, est la mystérieuse lumière qui se glissera dans les derniers replis de cette histoire pour leur donner tout leur relief, et qui, certes, les agrandira aux yeux de ceux qui ont encore la foi. Puis, s'il y a bêtise, pourquoi ne s'occuperait-on pas des malheurs de la bêtise, comme on s'occupe des malheurs du génie? L'une est un élément social infiniment plus abondant que l'autre. Donc, Mademoiselle Cormon péchait aux yeux du monde par la divine ignorance des vierges. Elle n'était point observatrice, et sa conduite avec ses prétendus le prouvait assez. En ce moment même, une jeune fille de 16 ans, qui n'aurait pas encore ouvert un seul roman, aurait lu 100 chapitres d'amour dans les regards d'Athanase. Tandis que Mademoiselle Cormon n'y voyait rien. Elle ne reconnaissait pas dans les tremblements de sa parole la force d'un sentiment qui n'osait se produire. Honteuse elle-même, Elle ne devinait pas la honte d'autrui. Capable d'inventer les raffinements de grandeur sentimentale qu'il avait primitivement perdus, elle ne les reconnaissait pas chez Athanase. Ce phénomène moral ne paraîtra pas extraordinaire aux gens qui savent que les qualités du cœur sont aussi indépendantes de celles de l'esprit que les facultés du génie le sont des noblesses de l'âme. Les hommes complets sont si rares que Socrate, l'une des plus belles perles de l'humanité, convenait avec un phrénologue de son temps qu'il était né pour faire un fort mauvais drôle. Un grand général peut sauver son pays à Zurich et s'entendre avec des fournisseurs. Un banquier de probité douteuse peut se trouver homme d'État. Un grand musicien peut concevoir des chants sublimes et faire un faux. Une femme de sentiment peut être une grande sotte. Enfin, une dévote peut avoir une âme sublime et ne pas reconnaître les sons que rend une belle âme à ses côtés. Les caprices produits par les infirmités physiques se rencontrent également dans l'ordre moral. Cette bonne créature, qui se désolait de ne faire ses confitures que pour elle et pour son vieil oncle, était devenue presque ridicule. Ceux qui se sentaient pris de sympathie pour elle à cause de ses qualités, et quelques-uns à cause de ses défauts, se moquaient de ses mariages manqués. Dans plus d'une conversation, on se demandait ce que deviendraient de si beaux biens, et les économies de Mademoiselle Cormon, et la succession de son oncle. Depuis longtemps, elle était soupçonnée d'être, au fond, malgré les apparences, une fille originale. En province, il n'est pas permis d'être original. C'est avoir des idées incomprises par les autres, et l'on y veut l'égalité de l'esprit, aussi bien que l'égalité des mœurs. Le mariage de Mademoiselle Cormon était devenu, dès 1804, quelque chose de si problématique que se marier comme Mademoiselle Cormon fut, dans Alençon, une phrase proverbiale qui équivalait à la plus railleuse des négations. Il faut que l'esprit moqueur soit un des plus impérieux besoins de la France pour que cette excellente personne excitât quelques railleries dans Alençon. Non seulement elle recevait toute la ville, elle était charitable, pieuse et incapable de dire une méchanceté. Mais encore, elle concordait à l'esprit général et aux mœurs des habitants qui l'aimaient comme le plus pur symbole de leur vie. Car elle s'était encroûtée dans les habitudes de la province. Elle n'en était jamais sortie. Elle en avait les préjugés, elle en épousait les intérêts, elle l'adorait. Malgré ses 18 000 livres de rente en fonds de terre, fortune considérable en province, elle restait à l'unisson des maisons moins riches. Quand elle se rendait à sa terre du Prébaudet, elle y allait dans une vieille carriole d'osier, suspendue sur 2 sous-pentes en cuir blanc, attelée d'une grosse jument poussive, et que fermaient à peine 2 rideaux de cuir rougis par le temps. Cette carriole, connue de toute la ville, était soignée par Jacquelin autant que le plus beau coupé de Paris. Mademoiselle y tenait. Elle s'en servait depuis 12 ans. Elle faisait observer ce fait avec la joie triomphante de l'avarice heureuse. La plupart des habitants savaient gré à Mademoiselle Cormon de ne pas les humilier par le luxe qu'elle aurait pu afficher. Il est même à croire que si elle avait fait venir de Paris une calèche, on en aurait plus glosé que de ses mariages manqués. La plus brillante voiture, d'ailleurs, l'aurait conduite au Prébaudet tout comme la vieille carriole. Or, la province, qui voit toujours la fin, s'inquiète assez peu de la beauté des moyens, pourvu qu'ils soient efficients. Pour achever la peinture des mœurs intimes de cette maison, il est nécessaire de grouper, autour de Mademoiselle Cormon et de l'abbé de Sponde, Jacquelin, Josette, et Mariette la cuisinière, qui s'employait au bonheur de l'oncle et de la nièce. Jacquelin, homme de 40 ans, gros et court, rougeau, brun, à figure de matelot breton, était au service de la maison depuis 22 ans. Il servait à table, il pansait la jument, il jardinait, Il cirait les souliers de l'abbé, faisait les commissions, sciait le bois, conduisait la carriole, allait chercher l'avoine, la paille et le foin au prébaudet. Il restait à l'antichambre le soir, endormi comme un loir. Il aimait, dit-on, Josette, fille de 36 ans, que mademoiselle Cormon aurait renvoyée si elle se fût mariée. Aussi, ces deux pauvres gens amassaient-ils leurs gages et s'aimaient-ils en silence, attendant et désirant le mariage de mademoiselle, comme les Juifs attendent le Messie. Josette, née entre Alençon et Mortagne, était petite et grasse. Sa figure, qui ressemblait à un abricot crotté, ne manquait ni de physionomie ni d'esprit. Elle passait pour gouverner sa maîtresse. Josette et Jacquelin, sûrs d'un dénouement, cachaient une satisfaction qui faisait présumer que ces deux amants s'escomptaient l'avenir. Mariette, la cuisinière, également depuis 15 ans dans la maison, savait accommoder tous les plats en honneur dans le pays. Peut-être faudrait-il compter pour beaucoup la grosse vieille jument normande Baie Brun qui traînait mademoiselle Cormon à sa campagne du Prébaudet, car les 5 habitants de cette maison portaient à cette bête une affection maniaque. Elle s'appelait Pénélope et servait depuis 18 ans. Elle était si bien soignée, servie avec tant de régularité, que Jacquelin et mademoiselle espéraient en tirer parti pendant plus de 10 ans encore. Cette bête était un perpétuel sujet de conversation et d'occupation. Il semblait que la pauvre mademoiselle Cormon, n'ayant point d'enfant à qui sa maternité rentrée pût se prendre, la reporta sur ce bienheureux animal. Pénélope avait empêché mademoiselle d'avoir des serins, des chats, des chiens, famille fictive que se donnent presque tous les êtres solitaires au milieu de la société. Ses 4 fidèles serviteurs, car l'intelligence de Pénélope s'était élevée jusqu'à celle de ses bons domestiques, tandis qu'il s'était abaissé jusqu'à la régularité muette et soumise de la bête, allaient et venaient chaque jour dans les mêmes occupations avec l'infaillibilité de la mécanique. Mais, comme ils le disaient dans leur langage, ils avaient mangé leur pain blanc en premier. Mademoiselle Cormon, comme toutes les personnes nerveusement agitées par une pensée fixe, devenait difficile, tracassière, moins par caractère que par le besoin d'employer son activité. Ne pouvant s'occuper d'un mari, d'enfants et des soins qu'ils exigent, elle s'attaquait à des minuties. Elle parlait pendant des heures entières sur des riens, sur une 12aine de serviettes numérotées Z qu'elle trouvait mises avant l'eau. « À quoi pense donc Josette ? » s'écriait-elle. « Josette ne prend donc garde à rien !» Mademoiselle demandait pendant 8 jours si Pénélope avait eu son avoine à 2 heures, parce qu'une seule fois Jacquelin s'était attardé. Sa petite imagination travaillait sur des bagatelles. Une couche de poussière oubliée par le plumeau, des tranches de pain mal grillées par Mariette, le retard apporté par Jacquelin à venir fermer les fenêtres sur lesquelles donnait le soleil dont les rayons mangeaient les couleurs du meuble, toutes ces grandes petites choses engendraient de graves querelles où mademoiselle s'emportait. « Tout changeait donc !» s'écriait-elle. Elle ne reconnaissait plus ses serviteurs d'autrefois. Ils se gâtaient, elle était trop bonne. Un jour, Josette lui donna la journée du chrétien au lieu de la quinzaine de Pâques. Toute la ville apprit le soir ce malheur. Mademoiselle avait été forcée de revenir de Saint-Léonard chez elle, et son départ subi de l'église, où elle avait dérangé toutes les chaises, fit supposer des énormités. Elle fut donc obligée de dire à ses amis la cause de cet accident. « Josette, avait-elle dit avec douceur, que pareille chose n'arrive plus. » Mademoiselle Cormon était, sans s'en douter, très heureuse de ces petites querelles qui servaient d'émonctoire à ses acrimonies. L'esprit a ses exigences, il a, comme le corps, sa gymnastique. Ces inégalités d'humeur furent acceptées par Josette et Jacquelin, comme les intempéries de l'atmosphère le sont par le laboureur. Ces trois bonnes gens disaient « Il fait beau temps » ou « Il pleut » sans accuser le ciel. Parfois, en se levant, le matin dans la cuisine, ils se demandaient dans quelle humeur se lèverait mademoiselle, comme un fermier consulte les brumes de l'aurore. Enfin, nécessairement, mademoiselle Cormon avait fini par se contempler elle-même dans les infiniment petits de sa vie. Elle et Dieu, son confesseur et ses lessives, ses confitures à faire et les offices à entendre, son oncle à soigner, avaient absorbé sa faible intelligence. Pour elle, les atomes de la vie se grossissaient en vertu d'une optique particulière aux gens égoïstes par nature ou par hasard. Sa santé si parfaite donnait une valeur effrayante au moindre embarras survenu dans les tubes digestifs. Elle vivait d'ailleurs sous la férule de la médecine de nos aïeux et prenait par an 4 médecines de précaution à faire crever Pénélope, mais qui la ragaillardissaient. Si Josette, en l'habillant, trouvait un léger bouton épanoui sur les omoplates encore satinées de mademoiselle, c'était un sujet d'énormes perquisitions dans les différents bols alimentaires de la semaine. Quel triomphe si Josette rappelait à sa maîtresse un certain lièvre trop ardent qui avait dû faire lever ce damné bouton. Avec quelle joie toutes deux disaient « Il n'y a pas de doute, c'est le lièvre !» Mariette l'avait trop épicé, reprenait mademoiselle. Je lui dis toujours de faire doux pour mon oncle et pour moi. Mais Mariette n'a pas plus de mémoire que... le lièvre, disait Josette. C'est vrai, répondait mademoiselle. Elle n'a pas plus de mémoire que le lièvre. Tu as bien trouvé cela. 4 fois par an, au commencement de chaque saison, mademoiselle Carmont allait passer un certain nombre de jours à sa terre du Prébaudet. On était alors à la mi-mai, époque à laquelle mademoiselle Cormon voulait voir si ses pommiers avaient bien neigé. Mot du pays qui exprime l'effet produit sous ces arbres par la chute de leurs fleurs. Quand l'amas circulaire des pétales tombés ressemble à une couche de neige, le propriétaire peut espérer une abondante récolte de cidre. En même temps qu'elle jaugeait ainsi ses tonneaux, mademoiselle Cormon veillait aux réparations que l'hiver avait nécessitées. Elle ordonnait les façons de son jardin et de son verger, d'où elle tirait de nombreuses provisions. Chaque saison avait sa nature d'affaires. Mademoiselle donnait, avant son départ, un dîner d'adieu à ses fidèles, quoiqu'elle dût les retrouver 3 semaines après. C'était toujours une nouvelle qui retentissait dans Alençon que le départ de mademoiselle Cormon. Ses habitués, en retard d'une visite, venaient alors la voir. Son appartement de réception était plein, chacun lui souhaitant un bon voyage, comme si elle eût dû faire route pour Calcutta. Puis, le lendemain matin, les marchands étaient sur le pas de leur porte. Petits et grands regardaient passer la carriole, et il semblait qu'on s'apprît une nouvelle en se répétant les uns aux autres. « Mademoiselle Cormon va donc au Prébaudet. » Par ici, l'un disait « Elle a du pain de cuit, celle-là. »
« Eh, mon gars !» répondait le voisin.
« C'est une brave personne. Si le bien tombait toujours en de pareilles mains, le pays ne verrait pas un mendiant. » Parla un autre. « Tiens, tiens, je ne m'étonne pas si nos vignobles de haute futaie sont en fleurs. Voilà mademoiselle Cormon qui part pour le Prébaudet. D'où vient qu'elle se marie si peu ?»«
Je l'épouserai bien tout de même, » répondait un plaisant. « Le mariage est à moitié fait. Il y a une partie de consentante.
Mais l'autre ne veut pas.
Bah, c'est pour monsieur du Bousquier que le four chauffe. »
Monsieur du Bousquier? Elle l'a refusé.
Le soir, dans toutes les réunions, on se disait gravement, mademoiselle Cormon est partie.
Ou, vous avez donc laissé partir mademoiselle Cormon?
Le mercredi choisi par Suzanne pour s'en esclandre était, par un effet du hasard, ce mercredi d'adieu, jour où mademoiselle Cormon faisait tourner la tête à Josette pour les paquets à emporter. Donc, pendant la matinée, il s'était dit et passé des choses en ville qui prêtaient le plus vif intérêt à cette assemblée d'adieu. Madame Granson était allée sonner la cloche dans 10 maisons, pendant que la vieille fille délibérait sur les encas de son voyage, et que le malin chevalier de Valois faisait un piquet chez mademoiselle Armande de Gordes, sœur du vieux marquis de Gordes, dont elle tenait la maison, et qui était la reine du salon aristocratique. S'il n'était indifférent pour personne de voir quelle figure ferait le séducteur pendant la soirée, il était important pour le chevalier et pour madame Granson de savoir comment mademoiselle Cormon prendrait la nouvelle, en sa double qualité de fille nubile et de présidente de la société de maternité. Quant à l'innocent du Bousquier, il se promenait sur le cours, en commençant à croire que Suzanne l'avait joué. Ce soupçon le confirmait dans ses principes à l'endroit des femmes. Dans ses jours de gala, la table était déjà mise vers 3h30, car en ce temps, le monde fashionable d'Alençon dînait par extraordinaire à 4h. On y dînait encore sous l'Empire à 2h après-midi, comme jadis, mais l'on soupait. Un des plaisirs que mademoiselle Cormon savourait le plus, sans y entendre malice, mais qui certes reposait sur l'égoïsme, consistait dans l'indicible satisfaction qu'elle éprouvait à se voir habillée comme l'est une maîtresse de maison qui va recevoir ses hôtes. Quand elle s'était ainsi mise sous les armes, il se glissait dans les ténèbres de son cœur un rayon d'espoir. Une voix lui disait que la nature ne l'avait pas si abondamment pourvue en vain, et qu'il allait se présenter un homme entreprenant. Son désir se rafraîchissait comme elle avait rafraîchi son corps. Elle se contemplait dans sa double étoffe avec une sorte d'ivresse, puis cette satisfaction se continuait alors qu'elle descendait pour donner son redoutable coup d'œil au salon, au cabinet et au boudoir. Elle s'y promenait avec le contentement naïf du riche qui pense à tout moment qu'il est riche et qu'il ne manquera jamais de rien. Elle regardait ses meubles éternels, ses antiquités, ses lacs. Elle se disait que de si belles choses voulaient un maître. Après avoir admiré la salle à manger, remplie par la table oblongue où s'étendait une nappe de neige ornée d'une 20aine de couverts placés à des distances égales, après avoir vérifié l'escadron de bouteilles qu'elle avait indiqué et qui montrait d'honorables étiquettes, après avoir méticuleusement vérifié les noms écrits sur de petits papiers par la main tremblante de l'abbé, seul soin qu'il prit dans le ménage et qui donnait lieu à de graves discussions sur la place de chaque convive, alors mademoiselle allait, dans ses atours, rejoindre son oncle, qui, vers ce moment le plus joli de la journée, se promenait sur la terrasse, le long de la brillante, en écoutant le ramage des oiseaux nichés dans le couvert, sans avoir à craindre les chasseurs ou les enfants. Durant ces heures d'attente, elle n'abordait jamais l'abbé de Sponde sans lui faire quelques questions saugrenues, afin d'entraîner le bon vieillard dans une discussion qui pût l'amuser. Voici pourquoi. Car cette particularité doit achever de peindre le caractère de cette excellente fille. Mademoiselle Cormon regardait comme un de ses devoirs de parler. Non qu'elle fût bavarde, elle avait malheureusement trop peu d'idées et savait trop peu de phrases pour discourir. Mais elle croyait accomplir ainsi l'un des devoirs sociaux prescrits par la religion qui nous ordonne d'être agréable à notre prochain. Cette obligation lui coûtait tant qu'elle avait consulté son directeur, l'abbé Couturier, sur ce point de civilité puérile et honnête. Malgré l'humble observation de sa pénitente, qui lui avoua la rudesse du travail intérieur auquel se livrait son esprit pour trouver quelque chose à dire, ce vieux prêtre, si ferme sur la discipline, lui avait lu tout un passage de saint François de Sales sur les devoirs de la femme du monde, sur la décente gaieté des pieuses chrétiennes qui devaient réserver leur sévérité pour elles-mêmes et se montrer aimables chez elles et faire que le prochain ne s'y ennuyât point. Ainsi pénétré de ses devoirs,
et voulant à tout prix obéir à son directeur, qui lui avait dit de causer avec aménité, quand la pauvre fille voyait la conversation s'alanguir, elle suait dans son corset, tant elle souffrait en essayant d'émettre des idées pour ranimer les discussions éteintes. Elle lâchait alors des propositions étranges, comme celle-ci. « Personne ne peut se trouver dans deux endroits à la fois, à moins d'être petit oiseau. » Par laquelle, un jour, elle réveilla, non sans succès, une discussion sur l'ubiquité des apôtres, à laquelle elle n'avait rien compris. Ces sortes de rentrées lui méritaient dans sa société le surnom de « la bonne mademoiselle Cormon ». Dans la bouche des beaux esprits de la société, ce mot voulait dire qu'elle était ignorante comme une carpe et un peu bestiote. Mais beaucoup de personnes de sa force prenaient l'épithète dans son vrai sens et répondaient « Oh oui, mademoiselle Cormon est excellente !» Parfois elle faisait des questions si absurdes, toujours pour être agréable à ses hôtes et remplir ses devoirs envers le monde, que le monde éclatait de rire. Elle demandait par exemple ce que le gouvernement faisait des impositions qu'il recevait depuis si longtemps. Pourquoi la Bible n'avait pas été imprimée du temps de Jésus-Christ, puisqu'elle était de Moïse? Elle était de la force de ce country gentleman qui, entendant toujours parler de la postérité à la Chambre des communes, se leva pour faire ce speech devenu célèbre. « Messieurs, j'entends toujours parler ici de la postérité. Je voudrais bien savoir ce que cette puissance a fait pour l'Angleterre. » Dans ces circonstances, l'héroïque chevalier de Valois amenait au secours de la vieille fille toutes les forces de sa spirituelle diplomatie, en voyant le sourire qu'échangeait d'impitoyable demi-savant. Le vieux gentilhomme, qui aimait à enrichir les femmes, prêtait de l'esprit à mademoiselle Cormon en la soutenant paradoxalement. Il en couvrait si bien la retraite que parfois la vieille fille semblait ne pas avoir dit une sottise. Elle avoua sérieusement un jour qu'elle ne savait pas quelle différence il y avait entre les bœufs et les taureaux. Le ravissant chevalier arrêta les éclats de rire en répondant que les bœufs ne pouvaient jamais être que les oncles des taures, nom de la génisse en patois. Une autre fois, entendant beaucoup parler des élèves et des difficultés que ce commerce présentait, conversation qui revenait souvent dans un pays où se trouve le superbe haras du pin, elle comprit que les chevaux provenaient des montes et demanda pourquoi l'on ne faisait pas deux montes par an. Le chevalier attira les rires sur lui. « C'est très possible, » dit-il. Les assistants l'écoutèrent. « La faute, » reprit-il, « vient des naturalistes qui n'ont pas encore su contraindre les juments à porter moins de 11 mois. » La pauvre fille ne savait pas plus ce qu'était une monte qu'elle ne savait reconnaître un bœuf d'un taureau. Le chevalier de Valois servait une ingrate. Jamais mademoiselle Cormon ne comprit un seul de ses chevaleresques services. En voyant la conversation ranimée, elle ne se trouvait pas si bête qu'elle pensait l'être. Enfin, un jour, elle s'établit dans son ignorance, comme le duc de Branca, le héros du distrait, se posa dans le fossé où il avait versé et y prit si bien ses aises que quand on vint l'en retirer, il demanda ce qu'on lui voulait. Depuis cette époque assez récente, mademoiselle de Cormon perdit sa crainte. Elle eut un aplomb qui donnait à ses rentrées quelque chose de la solennité avec laquelle les Anglais accomplissent leur niaiserie patriotique et qui est comme la fatuité de la bêtise. En arrivant auprès de son oncle d'un pas magistral, elle ruminait donc une question à lui faire pour le tirer de ce silence qui la peinait toujours, car elle le croyait ennuyé. « Mon oncle, » lui dit-elle en se pendant à son bras et se collant joyeusement à son côté. C'était encore une de ses fictions. Elle pensait « Si j'avais un mari, je serais ainsi. » « Mon oncle, si tout arrive ici-bas par la volonté de Dieu, il y a donc une raison de toute chose. » « Certes, » fit gravement l'abbé de Sponde, qui, chérissant sa nièce, se laissait toujours arracher à ses méditations avec une patience angélique.
« Alors, si je reste fille, une supposition, Dieu le veut ?»«
Oui, mon enfant, » dit l'abbé.
« Mais, cependant, comme rien ne m'empêche de me marier demain, sa volonté peut être détruite par la mienne ?»
Cela serait vrai si nous connaissions la véritable volonté de Dieu, répondit l'ancien prieur de Sorbonne.
Remarque donc, ma fille, que tu mets un « si ».
La pauvre fille, qui avait espéré entraîner son oncle dans une discussion matrimoniale par un argument ab omnipotentem, resta stupéfaite. Mais les personnes dont l'esprit est obtus suivent la terrible logique des enfants qui consiste à aller de réponse en demande, logique souvent embarrassante.
« Mais mon oncle, Dieu n'a pas fait les femmes pour qu'elles restent filles, car elles doivent être ou toutes filles ou toutes femmes. Il y a de l'injustice dans la distribution des rôles. »
« Ma fille, dit le bon abbé, tu donnes tort à l'Église qui prescrit le célibat comme la meilleure voie pour aller à Dieu.
« Mais si l'Église a raison et que tout le monde fut bon catholique, le genre humain finirait donc, mon oncle ?»«
Tu as trop d'esprit, Rose. Il n'en faut pas tant pour être heureuse. »
Un mot pareil excitait un sourire de satisfaction sur les lèvres de la pauvre fille et la confirmait dans la bonne opinion qu'elle commençait à prendre d'elle-même.
Et voilà comment le monde, comment nos amis et nos ennemis sont les complices de nos défauts.